lire dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Alors pour commencer, on pourrait lire du verset 1 à 16. Or il y avait un certain homme malade, Lazare de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et c'était la Marie qui oignit le Seigneur d'un parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, de laquelle Lazare, le malade, était le frère. Les sœurs donc envoyèrent vers lui, disant « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jésus, l'ayant entendu, dit « Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Après donc qu'il eut entendu que Lazare était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. Puis, après cela, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs cherchaient tout à l'heure à te lapider, et tu y vas encore ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche de jour, il ne bronche pas, car il voit la lumière de ce monde. » Mais si quelqu'un marche de nuit, il bronche, car la lumière n'est pas en lui. Il dit ces choses, et après cela, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais pour l'éveiller. » Les disciples donc lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » Or Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il avait parlé du dormir du sommeil. Jésus leur dit donc alors ouvertement, « Lazare est mort et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas donc, appelé Didyme, dit à ses condisciples, « Allons-y nous aussi, afin que nous mourions avec lui. » Quelques remarques sur cette scène, et peut-être qu'on pourra continuer un petit peu ce qui est après ce qu'on a lu. Donc c'est une scène qui est bien connue, mais qui est une scène qui est très riche, et elle est pleine d'instructions pour nous. Alors on ne peut pas, en une réunion, tout explorer parce qu'elle est infinie. Il y a beaucoup de détails qui sont précieux, mais on pourrait donner quelques grandes lignes. Et on voit notre Seigneur qui agit d'une manière remarquable. Alors, on a chanté que le Seigneur était notre bon berger. Et en fait, c'est ce qu'on voit dans le chapitre précédent, où le Seigneur se présente comme le bon berger qui fait sortir ses brebis de la bergerie. Et qui a d'autres brebis que celles qui étaient dans la bergerie. Donc c'est le Seigneur qui sort les croyants qui étaient au milieu du judaïsme et qui va sortir aussi des croyants qui étaient parmi les nations, parmi les païens, pour avoir un seul troupeau. Et on voit en fait aussi dans les chapitres qui précèdent, le chapitre 8, 9, que le Seigneur est rejeté, est complètement rejeté par les juifs au milieu desquels il était. Il est rejeté en rapport avec ses paroles qu'il prononçait, son enseignement. Il est rejeté aussi en rapport avec les œuvres, les miracles qu'il faisait, comme au chapitre 9, quand il guérit l'aveugle-né. Et donc il est rejeté, et même ceux qui croient en lui sont rejetés, comme l'aveugle qui a été guéri au chapitre 9. Ils sont rejetés du judaïsme, mais le Seigneur se présente comme le bon berger qui conduit ses brebis au dehors. Et c'est remarquable de voir qu'en fait, il y a d'un côté, on a l'impression que le Seigneur subit son rejet et que ceux qui croient en lui subissent un rejet. Mais à la lumière du chapitre 10, on voit que c'est le Seigneur qui contrôle tout et c'était son intention de sortir ses brebis de la bergerie, donc du judaïsme, pour les conduire ailleurs. Et dans le christianisme, on pourrait dire, et dans la pleine bénédiction du christianisme. Et puis, donc on arrive au chapitre 11. Donc on dit que le Seigneur a été complètement rejeté par les Juifs. Et on peut dire que dans le chapitre 11, c'est Dieu qui va vouloir rendre encore un témoignage au sujet de son Fils qui est rejeté, et un témoignage éclatant à la gloire de son Fils. Et Dieu va montrer que celui qui est rejeté sur la terre est le Fils de Dieu. Et ce témoignage va être rendu par la résurrection de Lazare d'entre les morts. Et c'est un miracle extraordinaire, ressusciter un mort, et c'était la preuve, la manifestation que le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu. Et Dieu a voulu que ce témoignage soit rendu alors que son Fils était rejeté sur la terre. Et donc on peut dire que dans ce chapitre 11, on pourrait dire un mot-clé, c'est le témoignage qui est rendu à la gloire du Fils de Dieu. Mais on voit aussi en lisant la manière dont le Seigneur se comporte est merveilleuse, et on peut essayer d'en dire quelque chose. Alors on voit que à Béthanie, ce village qui était à l'est de Jérusalem, sur la montagne des Oliviers, au pied de la montagne des Oliviers, il y avait donc une famille qui avait déjà reçu le Seigneur, Marthe et Marie. On connaît la scène de Luc 10, quand le Seigneur était venu dans cette maison et qu'il avait été reçu, et on se souvient de Marie qui s'était assise à ses pieds pour l'écouter parler. Et donc Marie avait appris au pied du Seigneur, et là on voit que dans cette maison, il y a une épreuve importante, et on voit que donc il y a Lazare qui est malade. Et visiblement, les sœurs prennent conscience que ce n'était pas une maladie, on pourrait dire, anodine, mais que c'était une maladie sérieuse, et à tel point que elles vont, verset 3, elles vont envoyer vers le Seigneur pour le lui dire. Et on voit que, si on lisait la fin du chapitre 10, on verrait que le Seigneur avait quitté la Judée, avait quitté Jérusalem, ayant été rejeté. Il était au bord du Jourdain, apparemment dans un autre lieu qui s'appelait aussi Béthanie, parce qu'il y a deux Béthanies dans les évangiles. Il était au bord du Jourdain, et donc il était loin de là, de la Judée, où étaient Béthanie et Jérusalem. Et on voit que les sœurs qui sont donc éprouvées par la maladie de leur frère, elles envoient vers le Seigneur, lui disant « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et on a souvent souligné que la beauté de cette phrase, de ce message que les sœurs ont envoyé vers le Seigneur. Et on voit dans ce message plusieurs choses. On voit d'abord le respect que ces sœurs avaient en rapport avec le Seigneur Jésus. Elles l'avaient reçu dans leur maison, elles le connaissaient, il y avait, on pourrait dire, une certaine familiarité, parce que le Seigneur était connu d'elles, mais en fait, on voit que, même s'il y a un Seigneur qui est connu, qui est aimé, qui est apprécié, il y a toujours un respect spécial vis-à-vis de lui, et qui se traduit par la façon dont elle parle de lui toujours, ou quand elle s'adresse à lui. Elle l'appelle toujours Seigneur. Seigneur, donc elles reconnaissent son autorité et elles lui disent « Voici celui que tu aimes est malade. » Donc à la fois, elles reconnaissent son autorité, à la fois, elles sont conscientes de son amour pour elles et pour leur frère, et elles parlent de leur frère comme « Celui que tu aimes ». Et donc on voit qu'il n'y a pas de contradiction entre avoir un profond respect pour quelqu'un, pour le Seigneur, et en même temps avoir conscience de son amour pour nous. L'un n'empêche pas l'autre. Et on voit chez ses sœurs, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et aussi, ce qui est remarquable chez ses sœurs, c'est qu'elles font face à une épreuve, et ce qu'elles font, c'est de simplement placer le problème devant le Seigneur sans lui dire ce qu'il doit faire. Elles ne lui disent pas « viens », elles ne lui disent pas « guéris-le », elles ne lui donnent aucune consigne. Elles présentent simplement le problème devant lui, certainement consciente qu'il est sage, il est bon et qu'il saura faire ce qu'il faut faire. Donc, dans la façon dont, dans le message qu'elle lui envoie, donc c'est remarquable, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et donc, les messagers viennent, le ou les messagers viennent jusqu'au Seigneur, verset 4, « Jésus, l'ayant entendu, dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc on voit le Seigneur qui reçoit cette nouvelle, même certainement dans son omniscience, il devait connaître toute chose. Donc il reçoit cette nouvelle et il va dire cette phrase qui n'était peut-être certainement pas comprise tout de suite par ceux qui l'ont entendue. Donc cette maladie n'est pas à la mort, c'est-à-dire la fin, la finalité de cette maladie, ça ne sera pas la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc on voit dans un sens, dans ces paroles du Seigneur, qu'il annonce ce qu'on disait au début, que par cette épreuve et par cette intervention du Seigneur, il serait glorifié comme Fils de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc il serait glorifié comme Fils de Dieu parce qu'il allait ressusciter Lazare d'entre les morts. Mais si on prend ce verset 4 et ces paroles du Seigneur, pas forcément pour cette scène unique de Jean 11, mais plus largement, c'est des paroles qui sont très encourageantes parce qu'elles nous montrent que les problèmes qu'on peut rencontrer dans nos vies, comme ces sœurs ont rencontré, eh bien, le Seigneur a toujours une intention, a toujours un plan, un but à travers les difficultés que l'on rencontre. Et le but, c'est toujours, entre autres, la gloire de Dieu. Donc si nous faisons face à des difficultés dans nos vies, eh bien, ce n'est jamais un hasard, tout est dans les mains de Dieu. Et Dieu a toujours une finalité, une intention à travers nos épreuves, et en particulier la gloire de Dieu. Et on verra aussi que ça sera à la gloire de Dieu, mais ça sera aussi pour la bénédiction de ceux qui sont éprouvés. Et il nous est dit, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » On voit plusieurs fois dans ce chapitre, je crois quatre fois si on compte, qu'il y a au moins quatre fois, il est rendu témoignage que le Seigneur aimait Marthe, Marie et Lazare. Et donc c'est clair que le Seigneur les aimait. Et mais on voit en fait que le Seigneur les aimait, mais il va agir d'une manière remarquable. Et il va agir avant tout dans la dépendance de Dieu. Et en fait, il ne va pas agir comme peut-être nous on pourrait agir, simplement animé par des affections. Et c'est remarquable parce que justement, il est souligné plusieurs fois l'amour du Seigneur pour les sœurs et pour Lazare. Mais en même temps, on voit que ce n'est pas ça qui fait agir directement le Seigneur. Et qu'est-ce qui fait agir le Seigneur? C'est la dépendance de Dieu. Et en fait, on va voir que c'est aussi un enseignement pour nous. Si, on pourrait dire que si le Seigneur avait agi sur la base seule de ses affections pour les sœurs, il y serait allé tout de suite, les rejoindre. Mais il est dit qu'il a attendu 2 jours. Et donc c'est quelque chose ça, qui est remarquable dans la façon de faire du Seigneur, c'est qu'il met la volonté de son Père, de son Dieu, en priorité. Il les aime, et on peut imaginer que bien mieux que nous, il était conscient de leur détresse, de leur inquiétude, de leur peine. Et il savait même à l'avance le désarroi dans lequel elles allaient être en ne voyant pas le Seigneur arriver tout de suite et en voyant leur frère mourir. Il le savait. Et lui qui était parfaitement sensible, il pouvait anticiper ce que ses sœurs allaient vivre comme détresse intérieure. Mais ce n'est pas ça qui le fait agir. C'est la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il dit un peu après, on va y venir. Donc ce qui est remarquable, c'est que le Seigneur, on pourrait dire, s'il avait agi sur la base de ses affections, il serait tout de suite allé à Béthanie. Mais 2 jours plus tard, versets 6 et 7, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée ». Et les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs cherchaient tout à l'heure à te lapider et tu y vas encore ». Et donc là, les disciples ils mettent en avant un autre aspect. L'aspect que les disciples mettent en avant, c'est attention, danger. Il y a à Béthanie, en Judée, il y a les Juifs qui cherchent à te faire mourir. Et si tu y vas, eh bien, ils vont te prendre et ils vont te faire mourir. Et donc, on peut dire que si le Seigneur avait agi avec prudence, la prudence humaine, il ne serait pas du tout allé en Judée. Donc, s'il avait agi selon les seules affections, il y serait allé tout de suite. S'il avait agi par prudence, il n'y serait jamais allé. Mais lui, parfait, il y va après avoir attendu 2 jours, dans la dépendance de Dieu. Et c'est ce qu'il dit en fait, en quelque sorte, dans le verset 9 et dans le verset 10. « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche 2 jours, il ne bronche pas, il ne tombe pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il bronche, il tombe, car la lumière n'est pas en lui. » Donc en fait, c'est ce qu'il dit par cette image de marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est marcher selon ce que Dieu lui dit de faire. Et donc, il marche dans la lumière, il a attendu 2 jours, et 2 jours après, c'était le moment d'aller en Judée, à Béthanie. Donc on voit cette façon admirable du Seigneur d'agir. Et puis, donc, il dit à ses disciples, « Lazare, notre ami, ça veut dire celui que nous aimons, s'est endormi, mais je vais pour l'éveiller. » Donc le Seigneur est conscient que la maladie de Lazare s'est transformée en mort, mais il y va pour l'éveiller. Les disciples ne comprennent pas le langage du Seigneur. Donc le Seigneur leur dit ouvertement que Lazare est mort, et il dit ceci, « Et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. » Et ça aussi, c'est une phrase qui est remarquable de la part du Seigneur. Il dit, il y a Lazare qui est mort, il leur annonce la mort de Lazare, mais il leur dit, je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Et donc le Seigneur, il se réjouit que les choses aient tourné de cette manière, parce que ainsi, la foi des disciples serait fortifiée, afin que vous croyiez. C'est-à-dire afin que votre foi soit fortifiée, soit affermie. Et ça, c'est aussi, ça nous parle. Peut-être que des circonstances dans nos vies qui sont, qu'on n'aurait absolument pas voulu, qu'on n'aurait absolument pas espéré, des choses qui tournent de manière très négative, et bien peut-être aussi qu'il y a derrière une intention, certainement qu'il y a une intention de Dieu, et qu'il y a un but, que notre foi soit affermie. Je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Donc on voit qu'ils y vont. Thomas, appelé Didyme, dit à ses condisciples, « Allons-y, nous aussi, afin que nous mourions avec lui. » Donc je passe sur cette façon de parler de Thomas, qui est aussi intéressante à souligner, mais pour pas être trop long, on peut continuer un petit peu le récit. On peut lire verset 17. « Jésus étant donc arrivé, trouva qu'il, Lazare, était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à une distance d'environ 15 stades, et plusieurs d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. » Donc là, les circonstances nous sont présentées. Le Seigneur s'approche. Il n'est pas encore tout à fait arrivé à Béthanie. Et là, on peut comprendre qu'il y a des personnes qui vont l'avertir que Lazare est déjà mort et qu'il est depuis 4 jours dans le sépulcre. Depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, c'est-à-dire que non seulement il était mort, mais comme on peut le voir plus tard, la corruption avait fait son œuvre sur le corps de Lazare. Ce n'était pas quelqu'un qui venait juste de mourir, comme la fille de Jaïrus que le Seigneur avait ressuscité plus tôt, ou comme le fils de la veuve de Naïn qui était mort mais et qu'on allait enterrer. Là, il y a quelque chose de plus avancé encore. Le mort était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et il y avait des Juifs qui étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Donc, le fait que ces Juifs viennent consoler Marthe et Marie fait qu'il y a d'autres personnes qui sont amenées et qui seront témoins de la résurrection de Lazare. Et puis, à partir de là, on a on va avoir les deux rencontres du Seigneur, la première avec Marthe et la deuxième avec Marie. On peut lire d'abord la rencontre du Seigneur avec Marthe. Marthe donc, quand elle eut ouï dire que Jésus venait, alla au devant de lui. Mais Marie se tenait assise dans la maison. Marthe donc dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Crois-tu cela ? » Et elle lui dit, « Oui, Seigneur. Moi, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Marie, sa sœur. Donc le Seigneur arrive à Béthanie. Et on voit, donc il y a beaucoup de choses à dire. On voit Marthe et Marie qui vont réagir, qui vont se comporter de manière différente. On peut dire que Marthe, elle est plus impulsive et Marie est plus réfléchie, plus profonde que Marthe. On ne dit pas ça pour critiquer Marthe, mais ça ressort du récit. Et en fait, ça nous est donné pour notre instruction. Donc on voit chez Marthe une personne plus impulsive, une personne qui aime le Seigneur, qui a confiance dans le Seigneur, aucun doute là-dessus, mais qui va réagir plutôt de manière impulsive. Et on voit que dès qu'elle entend que le Seigneur approche, elle sort de la maison et elle va à sa rencontre. Et on voit le contraste avec Marie, elle, elle attend. Et on verra qu'elle attend jusqu'à ce que le Seigneur l'appelle. Donc on voit la différence d'attitude entre l'une et l'autre. L'une impulsive, agit tout de suite, se lève tout de suite pour aller à la rencontre du Seigneur. L'autre, plus profonde, plus sage, elle attend l'appel du Seigneur pour aller à sa rencontre. Et donc Marthe arrive auprès du Seigneur et elle va lui dire tout de suite, Seigneur, verset 21, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et on verra que Marie lui dit exactement la même chose. Mais on peut penser que dans cette façon de parler, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. On voit qu'il y a, on pourrait dire, deux sentiments qu'on peut voir dans cette façon de parler. Il y a le regret et peut-être du reproche. Alors, c'est difficile de mettre le curseur au bon endroit, mais voilà, cette façon de parler peut exprimer à la fois du regret et du reproche. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et on voit que le Seigneur va lui répondre, et il va lui répondre en lui faisant une révélation. Une révélation au sujet de la résurrection. Mais on voit que dans le dialogue entre Marthe et le Seigneur, on voit que Marthe, elle avait une connaissance du Seigneur, elle aimait le Seigneur, elle avait confiance en lui, mais elle le voyait comme, et c'était normal parce que c'était ainsi que les Juifs de ce temps-là le connaissaient, en tout cas les croyants, elle le voyait comme le Messie d'Israël. Le Messie d'Israël, pourquoi je dis ça? Parce que le Messie d'Israël, pour les Juifs, c'était la personne qu'ils attendaient, qui allait régner et qui allait être comme l'intermédiaire entre Dieu et le peuple Israël, l'intermédiaire qui administrerait toutes les bénédictions sur Israël. Et c'est comme ça qu'elle voit le Seigneur Jésus. Et quand elle dit, par exemple, « Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera », elle voit donc dans le Seigneur quelqu'un qui fera des demandes à Dieu. Et c'est exactement, en fait, la façon, mais de façon normale, c'était la façon dont les Juifs considéraient le Messie qu'ils attendaient. Celui qui ferait, il y aurait beaucoup de versets dans l'Ancien Testament qui le prouvent, mais on n'a pas le temps maintenant, c'était celui qui ferait des demandes à Dieu, des demandes de bénédiction à Dieu pour son peuple. Et donc, Marthe, elle voit comme ça. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Mais en fait, le Seigneur, il va lui dire quelque chose de plus à Marthe. Il va lui dire, en quelque sorte, Marthe, je suis bien plus que le Messie que tu attends. Je suis bien plus que le roi d'Israël que tu attends. Je suis le Fils de Dieu lui-même. Moi, je suis la résurrection et la vie. Elle, Marthe, elle croyait en une résurrection au dernier jour. Et elle savait que tout homme ressuscitera au dernier jour. Mais là, le Seigneur, il lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Je ne veux pas trop m'arrêter sur ces expressions qui sont remarquables et qu'il faudrait expliquer, mais simplement dire voilà, que le Seigneur, il veut faire comprendre à Marthe qu'il est bien plus grand que ce qu'elle imaginait de lui. Je ne suis pas le Messie, le Fils de Dieu, roi d'Israël, que les Juifs attendaient. Je le suis, mais je suis bien plus que ça. Je suis la résurrection et la vie. Et il lui dit, crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. C'est-à-dire qu'elle dit, elle reste sur sa position initiale. Elle comprend pas, elle n'entre pas dans ce que le Seigneur lui montre de plus grand le concernant. Et quand elle dit, oui Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde, elle reste sur la révélation juive qu'elle connaissait. Mais c'est comme si elle ressent que le Seigneur parle de quelque chose qui la dépasse. Et comme elle ressent que le Seigneur parle de quelque chose qui la dépasse, qu'est-ce qu'elle fait ? Verset 28, elle appelle secrètement Marie, sa sœur, disant « Le Maître est venu et il t'appelle ». On n'est pas sûr que le Seigneur ait positivement appelé Marie, mais on a l'impression que c'est Marthe qui appelle Marie de la part du Seigneur, avec pour raison que le Seigneur parlait de choses qui la dépassaient elle, mais elle avait compris et savait que sa sœur était plus profonde et que sa sœur s'était assise au pied du Seigneur et qu'elle avait perçu plus que elle. Et donc on voit sans aucune jalousie, et c'est très beau, de voir que Marthe, elle va appeler sa sœur Marie. C'est comme si elle lui disait, il va te dire quelque chose que tu comprendras peut-être, mais que moi, ça me dépasse. Donc on voit dans ce premier entretien entre le Seigneur et Marthe, on voit le Seigneur qui fait face au désarroi de Marthe et qui répond à ce désarroi par la révélation que lui, il est le Fils de Dieu, que lui, il est la résurrection et la vie, et que lui ressuscitera ceux qui croient en lui. Et puis maintenant, on arrive à la rencontre du Seigneur avec Marie. Et on peut lire à partir du verset 29. Celle-ci, aussitôt qu'elle l'eut entendu, se lève promptement et s'en vient à lui. Or Jésus n'était pas encore arrivé dans le village, mais il était au lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs donc qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, ayant vu que Marie s'était levée promptement et était sortie, la suivirent, disant « Elle s'en va au sépulcre pour y pleurer ». Marie donc, quand elle fut venue là où était Jésus et qu'elle l'eut vu, se jeta à ses pieds, lui disant « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort ». Jésus donc, quand il la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer, frémit en son esprit et se troubla et dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui disent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs donc dirent, « Voyez comme il l'affectionnait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Celui-ci qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'aurait-il pas pu faire aussi que cet homme ne mourut pas ? » Jésus donc, frémissant encore en lui-même, vient au sépulcre. Donc on voit deuxième rencontre du Seigneur maintenant avec Marie. Et si on fait bien attention, dans la rencontre du Seigneur avec Marie, le Seigneur ne parle pas. Le Seigneur ne dit aucun mot à Marie. Il a parlé à Marthe, il a enseigné Marthe, il lui a révélé des choses le concernant, mais avec Marie, et c'est remarquable, le Seigneur ne lui dit pas un mot. Mais sans mots, il va lui faire comprendre peut-être encore plus à son sujet. On voit dans l'attitude de Marie, on voit qu'elle vient au Seigneur, mais à la différence de Marthe, quand elle arrive jusqu'au Seigneur, il est dit, elle se jette à ses pieds. Marthe, il n'est pas dit ça d'elle. Mais Marie, certainement encore plus dans le désarroi que Marthe par rapport à la situation, dans le désarroi parce qu'elle ne comprenne pas les voies du Seigneur. Elle ne comprenne pas pourquoi le Seigneur a attendu si longtemps, pourquoi il arrive trop tard. Et elle, qui était une femme profonde, peut-être qu'elle ressentait ce désarroi encore plus que Marthe. Mais quand elle arrive devant le Seigneur, elle se jette à ses pieds. Profond respect et soumission devant la personne du Seigneur. Et elle lui dit la même chose que Marthe. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Peut-être un peu plus de regret que de reproche dans sa bouche. Et verset 33, Jésus, donc, quand il la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer, frémit en son esprit et se troubla et dit, où l'avez-vous mis? Donc, quand je dis, il ne dit pas une parole, il ne dit pas une parole directement à Marie. Il va parler plus généralement à ceux qui sont là. Mais dans l'échange avec Marie, il n'y a pas de parole précisément pour Marie. Et on voit donc le Seigneur qui s'approche, qui voit Marie se jeter à ses pieds, qui voit Marie dans le désarroi et la perplexité. Et il la voit pleurer. Il voit les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer aussi. Et qu'est-ce qui nous est dit de lui ? Il frémit en son esprit et se troubla. Et la note nous dit ce que signifie le mot frémir, l'expression de la peine profonde mêlée d'indignation produite dans l'âme du Seigneur à la vue du pouvoir de la mort sur l'esprit de l'homme. Donc, le Seigneur, il voit la situation, il voit l'état dans lequel se trouve Marie, ses pleurs, les Juifs qui étaient là pleuraient. Donc il voit, comme il est dit dans la note, le pouvoir de la mort sur l'esprit de ces personnes qui pleuraient et leur désarroi, leur impuissance devant cette situation, devant la mort, impuissante. Ces personnes étaient impuissantes devant la mort, et non seulement impuissantes, mais affligées. Affligées. Et le Seigneur va frémir en son esprit. C'est-à-dire qu'il va ressentir. Mais c'est pas, on pourrait dire, c'est pas tout de suite de la sympathie en rapport avec la peine qu'elles connaissent, que Marie connaît, que Marthe connaît. Mais on peut dire que c'est le Seigneur, il pèse dans son esprit, en rapport avec Dieu, ce qu'est la mort. Et ce qu'est la mort, et l'impact de la mort sur l'esprit des hommes. Et le Seigneur, il voit, il pèse devant Dieu, voilà, l'effet de la mort sur les hommes. Et la note dit bien qu'il y a une indignation produite dans l'âme du Seigneur. Et ceux qui connaissent le texte grec disent que dans ce mot « frémir », il y a cette idée de combat, d'indignation, de combat. Et donc, on voit le Seigneur qui pèse ce qu'est la mort, mais en rapport avec Dieu. Et c'est remarquable. Et c'est d'une profondeur, on se sent tout petit devant de telles expressions. Mais on voit le Seigneur qui entre vraiment dans ce que ressentent les uns et les autres. Et peut-être encore plus, il ressent devant Dieu l'effet de la mort sur les hommes. Il frémit en son esprit et se troubla. On voit donc les sentiments intérieurs du Seigneur en rapport avec la circonstance. Et il demande où est le mort. On lui dit « Viens et vois ». Et il dit « Jésus pleura ». Et le mot « pleurer » ici, dans le verset 35, ça veut dire exactement « il versa des larmes ». Ce qui veut dire que ce n'était pas des pleurs comme dans le verset 33, au verset 32, 33, c'était des pleurs silencieux. Il a versé des larmes. Et il est dit ailleurs que le Seigneur avait pleuré sur Jérusalem, je crois que c'est en Luc 19 peut-être, ou peut-être que je me trompe, mais dans Luc, quand il est dit que le Seigneur avait pleuré sur Jérusalem, c'était des pleurs audibles. Mais là, le sens du mot « Jésus pleura », c'est « il a versé des larmes ». Quelque chose de silencieux. Mais la sympathie qu'il avait, ça montre la sympathie qu'il a eue pour ceux qui étaient dans le désarroi, devant la mort. Et donc on voit quelque chose de parfait, non seulement de parfait, mais de divin dans la personne du Seigneur. On voit il pèse devant Dieu ce que représente cette situation, il frémit en son esprit, et en même temps, il est plein de sympathie et de compassion pour celles et ceux qui pleurent et qui sont affligés par cette situation. Donc on voit un Seigneur parfait, un Seigneur qui est parfaitement sensible et qui entre complètement dans les souffrances, dans les peines, et qui peut sympathiser. Non pas comme les Juifs qui étaient venus pour consoler Marie et Marthe, beaucoup mieux. Et lui, il est là et il pleure avec elle. Jésus pleura. Et les Juifs donc dirent, voyez comme il l'affectionnait. Donc les Juifs pensent que le Seigneur pleurait à cause de Lazare. Mais le Seigneur ne pleurait pas à cause de Lazare. Parce que le Seigneur savait qu'il allait ressusciter Lazare. Mais les pleurs du Seigneur, les larmes du Seigneur, elles étaient en rapport avec Marthe, Marie, qui était dans le désarroi. Et donc le Seigneur ensuite va passer à l'action, on pourrait dire, et il va manifester sa gloire de Fils de Dieu, sa puissance de Fils de Dieu, en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Mais je veux m'arrêter maintenant, pour ne pas être trop long, mais retenons en tout cas, dans tout ce qu'on a lu jusque-là, les manières de faire du Seigneur. Quand il apprend la nouvelle, le Seigneur qui attend deux jours et qui y va un peu plus tard et qui arrive là, qui rencontre Marthe, qui rencontre Marie, la façon dont il agit vis-à-vis de l'une, vis-à-vis de l'autre, et finalement sa puissance de Fils de Dieu, sa gloire de Fils de Dieu qui est manifestée lorsqu'il va ressusciter Lazare d'entre les morts.